enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.
Voilà, vous avez bien fait de venir. Vraiment, vous avez bien fait. J'aimerais peut-être commencer ce soir en vous posant une petite question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre quelque chose ? Quelque chose de précieux, hein ? Votre épouse ou votre mari. Tout à l'heure, Sam disait que quelqu'un avait perdu ses clés. Je sais pas forcément s'il faut les lui ramener, hein. Moi, je suis pas sûr que l'échange serait équitable. Je sais que dernièrement, nous avons donc organisé une colonie de vacances cet été, et vous avez entendu, si vous étiez là le dimanche avant que nous partions, que j'avais perdu les clés de ma camionnette. Eh bien, la suite de l'épisode, c'est que j'ai pas les clés, mais j'ai plus non plus la camionnette, puisque je l'ai vendue. Du coup, je me suis dit, sans clé, je peux pas rouler. Donc, j'ai vendu la camionnette, mais j'ai dû rigoler, parce que le thème de la colo, c'était des clés pour être heureux. Et nous avions, avec l'aide de Katia également, découpé environ 2000 clés en carton. Alors, j'ai bien essayé l'une ou l'autre clé. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Hein. Avez-vous perdu quelque chose ? J'aimerais nous laisser également reprendre par une question que Jésus a posée à ses disciples et qu'il montre qu'eux également avaient perdu quelque chose. Mais quelque chose qui était bien plus précieux que les clés d'une camionnette ou les clés d'une maison ou les clés d'un bien matériel. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Vous allez m'aider tout à l'heure à prêcher mon message. Vous allez également être des prédicateurs. Je vous en dis pas plus. Luc chapitre 8, versets 22 à 25, voilà ce qu'il est dit. J'entends les pages qui se tournent. Luc se trouve dans le Nouveau Testament. Entre Matthieu, Marc et Jean. Avant l'Apocalypse et après la Genèse. Voilà. Pour avoir un repère. Il est dit ceci, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissaient d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Le titre de mon message ce soir comprend la question que posait Jésus à ses disciples, où est votre foi ? Et suit à cette question une seconde question qui, elle, n'a pas été posée par Jésus, mais qui a été posée par les disciples et qui disait, mais qui donc est celui qui commande au vent et à la mer de s'arrêter, qui demande aux éléments de s'arrêter et les éléments s'arrêtent. Et je pense que si nous voulons et désirons que notre foi augmente, voire peut-être pour certains qu'elle prenne vie en eux ce soir, qu'il est important de répondre à la question que les disciples ont posée. Qui est celui qui ordonne au vent, qui ordonne à la mer et qui permet, après leur avoir ordonné, que celle-ci, que ceci s'arrête. Apprenons ensemble ce soir, au travers de ce passage, à connaître, à nous approcher de la personne de Jésus. Et je crois que plus nous connaissons Jésus, plus nous allons augmenter dans notre capacité à croire en lui, voire pour certains, la foi, comme je le disais tout à l'heure, va prendre vie. Et c'est mon désir ce soir. Où est votre foi? Puisse votre foi ce soir augmenter, progresser, afin que vous puissiez vous saisir des promesses de Dieu. Puissions-nous ce soir, eh bien, rentrer dans une meilleure connaissance de la personne de Jésus afin de progresser dans notre capacité de croire que parce qu'il est tout puissant, il a également la capacité d'agir et de se manifester. Amen. Alors j'aimerais avec vous voir quatre points qui nous permettent de comprendre au travers de cette histoire qui est Jésus. Évidemment, si nous voudrions parler de qui est Jésus, une soirée et quelques minutes ne suffiraient pas. Il nous faudrait des jours, et il me semble même des fois que l'éternité ne suffirait pas de parler de celui qui finalement est infiniment bon et infiniment merveilleux. La première chose au travers de ce texte que j'ai dégagé concernant la personne de Jésus, c'est que Jésus est proche de nous. Il est dit dans ce texte, et c'est Jésus lui-même qui dira au début de ce texte, « Passons de l'autre côté du lac ». Jésus n'a pas dit « passez de l'autre côté du lac », il a dit à ses disciples « passons de l'autre côté du lac ». Autrement dit, Jésus nous envoie, mais s'il nous envoie, il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie et il vient avec nous. Il est proche de nous, il est à côté de nous, il aime cette proximité avec nous. Et dans ce texte, on voit bien que, eh bien, il désire être dans la barque avec les disciples. Passons ensemble de l'autre côté. Dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19, lorsque vous lisez ce texte à la fin du livre de Matthieu, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » Autrement dit, Jésus a envoyé et Jésus était avec. Jésus nous envoie et il est avec nous. Il est proche de nous. Et moi, j'aime cultiver cette proximité avec Jésus. Et plus vous cultivez cette proximité, plus alors, parce que vous cultivez cette proximité, votre foi va en augmentant et en augmentant. J'aimerais, en fil conducteur également de cette histoire sur la tempête, vous parlez d'un homme qui lui également a connu la tempête. Il s'appelle Job. Je lisais un petit peu les textes de Job dernièrement et je cherchais l'explication du nom de Job. L'une des explications veut dire épreuve et persécution. Et Job, mieux peut-être que quiconque, en tout cas que quiconque d'entre nous, sait ce que veut dire la persécution. Puisqu'alors que Job souffrait, eh bien ses amis qui théoriquement auraient dû le consoler l'ont encore enfoncé. Et puis Job, mieux également que quiconque d'entre nous, connaissait l'épreuve. Lorsque vous lisez le premier chapitre du livre de Job, vous voyez combien Job a été maltraité par l'épreuve. Il a perdu 10 de ses enfants, a été atteint par un ulcère malin, a perdu tous ses biens, sa femme même lui a dit « maudit Dieu et meurt ». Peut-on faire pire que cela? Pourtant, Job, chapitre 1, verset 21, dira la chose suivante. Nu, je suis venu du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Sommes-nous aussi prompts que Job, dans l'épreuve, à bénir Dieu comme lui l'a fait? Voyez-vous, je pense que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous considérons, nous aimons facilement entendre parler de lui en tant que bon berger. Qui n'aime pas être la brebis du bon berger? Je pense que chacun de nous, on apprécie que le bon berger nous mène dans les verts pâturages, nous conduise en direction des eaux paisibles et nous protège avec sa houlette et son bâton. Je pense que nous apprécions d'être des brebis de l'Éternel. Amen. Qui d'entre nous n'aime pas entendre parler de Dieu en tant que père? Un père qui prend soin de ses enfants. Un père qui veille sur ses enfants, qui les protège, qui les garde, qui les aime, qui les chérit. Amen. Et Dieu est un père. Il est le bon berger. Mais dans ce passage-là, Job, dans la phrase qu'il a citée après que les épreuves lui soient tombées dessus, nous parle plutôt d'un Dieu qui, comment dirais-je, est propriétaire de tous les biens qui lui appartiennent. Est-ce que nous sommes aussi prompts à dire de Dieu qu'il est le propriétaire de tous nos biens? Et que finalement, tout ce que nous avons, eh bien, lui appartient à lui, et si nous l'avons, c'est parce qu'il nous l'a prêté. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Et si nous l'avons reçu de Dieu, comment pourrions-nous nous en glorifier? Alors ça, c'est facile à dire quand tout va bien. Amen. Quand nous avons une nouvelle voiture, une nouvelle maison, quand tout va bien, Seigneur, merci parce que tu es le propriétaire de mes biens. Mais quand, comme Job, l'épreuve vient, et que Dieu, pour un temps, décide d'enlever ce que Job avait, sommes-nous toujours aussi prompts à dire, Seigneur, finalement, tu es propriétaire de mes biens. Et si tu as décidé de les enlever, c'est parce que tu as tes raisons. Approchons-nous de celui qui veut être tellement proche de nous. On chante souvent tellement facilement, oui, prends tout, Seigneur. Vous connaissez ce chant, hein? Oui, prends tout. Moi, quand on chante ce chant, honnêtement, je dis, Seigneur, prends presque tout. Mais mon épouse et mes enfants, laisse-les, hein? Laisse-les-moi. Hein? Parce que quand je pense à Job, je dis, Seigneur, moi, je voudrais pas que tu me prennes tout. Toutefois, Dieu est-il, malgré tout, le propriétaire de nos biens, celui à qui nous donnons le droit, en tout cas, de gérer nos biens comme lui-même l'entend. La deuxième attitude de Jésus dans ce texte, il est marqué que Jésus s'endormit. Autrement dit, si Jésus s'endormit, ça veut dire qu'il était humain. Jésus nous comprend. Il peut nous arriver d'être fatigué. Vous est-il déjà arrivé d'être fatigué? Oui, amen, hein? Il peut nous arriver d'être fatigué. Eh bien, lorsque nous sommes fatigués, voire fatigués également par rapport à des épreuves que nous pouvons vivre, eh bien, nous devons considérer que Dieu nous comprend parce que lui-même, devenu homme, a été fatigué. Si nous pleurons, il nous comprend parce que lui-même a pleuré. Si nous sommes pauvres, il nous comprend. Lui-même était pauvre. Il est passé du ciel de la gloire dans une étable. Il ne savait pas où reposer sa tête. Jésus s'est fait pauvre parmi les pauvres pour comprendre également ceux qui sont pauvres. Il a été tellement humain, tellement proche de nous. Peut-être te sens-tu rejeté. Il a lui-même été rejeté, abandonné. Peut-être as-tu perdu une partie de ton identité face aux difficultés que tu rencontres. Jésus lui-même, à un moment sur la croix, a dû perdre son identité en tant que fils de Dieu, alors qu'il portait les péchés de l'humanité. Il a vu Dieu l'abandonner pour un temps, afin de devenir malédiction pour chacun d'entre nous. Oh, comme il te comprend. Sommes-nous également avec les autres, parce que remplis de la personne de Dieu, sommes-nous humains? Avons-nous une relation humaine avec les autres? Partageons-nous avec eux une relation qu'ils puissent comprendre et saisir dans leurs souffrances et dans leurs difficultés? C'est en tout cas ce que Dieu nous demande. Lui qui a été humain parmi les humains, se mêlant aux prostituées, se mêlant à ceux qui étaient malades, paralysés, se mêlant aux péagers, etc. Il a été humain parmi les humains. J'aime ce qu'il est dit de Job. Papa Jean le soulevait un dimanche dans le verset 12 à 16 du chapitre 29. Il est dit ceci, car je sauvais, et c'est Job qui parle de lui, parce que je crois, ayant reçu la capacité de la part de Dieu, il dit ceci, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais la droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. » Et au verset 25, il dit ceci, « J'étais comme un consolateur auprès des affligés. » Job était humain dans sa relation avec les autres. Et parce qu'il était humain dans sa relation avec les affligés, avec les malheureux, ceux-ci ont trouvé au travers de lui, mais plus encore au travers de ce que Dieu faisait au travers de Job, ils ont trouvé de la consolation. Sommes-nous également humains ? Je disais l'autre jour que j'aime bien de temps à autre, lorsqu'il me reste un peu de temps, prendre mon rucksack orange, y mettre dedans du café, des gâteaux, et sortir dans la rue pour m'asseoir avec les SDF et discuter avec eux, être proche d'eux. L'un d'eux d'ailleurs m'avouera, il y a peu de temps de cela, qu'il était devenu SDF parce que sa femme enceinte était décédée dans un accident de voiture. Suite à cela, il avait perdu son travail, était devenu dépressif et n'avait plus d'autre solution que d'errer dans les rues. Combien d'hommes ont besoin de notre proximité afin qu'ils voient au travers de nous cette personne, Jésus, qui lui-même a été tellement proche des autres. Jésus s'endormit. Il était humain. Et puis un troisième point, il est disponible. Il est dit dans ce texte qu'ils réveillèrent Jésus. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des remarques du style « Dieu ne peut rien faire pour moi, il n'a pas le temps, il a assez de choses à s'occuper, comment pourrait-il encore penser à moi ou s'occuper de moi ?» J'aimerais vous dire, qui que vous soyez ici dans ce lieu, Dieu est disponible pour vous. Et dans la mesure où vous avez la foi qui vous permet de rentrer en relation, en contact avec lui, alors oui, il va se rendre disponible. Les disciples ont dû le réveiller pour qu'il puisse agir et se manifester. Alors je crois que la teneur de notre foi se mesure également dans notre manière de demander quelque chose à Jésus, de le réveiller. Et j'aimerais peut-être, au travers d'un petit sketch ce soir, il me faudrait pour ce sketch un Jésus. Alors j'ai choisi Luigi, bien que je pense que beaucoup pourraient représenter Jésus, puisque vous en êtes plein. Et j'aimerais chercher une barque. Et j'aimerais ce soir également que vous-même, vous puissiez participer. Alors voilà la barque. Alors par la foi, vous imaginez que c'est une barque, hein ? Luigi, s'il te plaît. Et par la foi, vous imaginez que c'est Jésus. Amen. Alors, je vais demander à Jésus de s'endormir sur la barque. Alors, je vais pas moi l'endormir, hein. Alors, vous, je sais pas comment vous vous réveillez le matin. Je sais pas si vous avez un réveil difficile. Je sais pas si pour vous réveiller, il faut venir avec un seau d'eau. Ou alors vous secouez plusieurs fois. Mais je pense que nous, en tout cas, lorsque nous voulons réveiller Jésus, ou en tout cas attirer son attention sur la difficulté que nous vivons, eh bien je crois qu'il y a une manière de le réveiller. Et finalement, les disciples, me semble-t-il, n'avaient pas la bonne manière. Alors il y a plusieurs manières de s'adresser à Jésus. L'une de ces manières, c'est la manière du culpabiliser. Vous savez, celui qui se sent tout le temps coupable de tout, et qui lui, s'il avait été disciple dans la barque, se serait peut-être approché en disant « Jésus, je m'excuse de m'excuser, bien que j'ai péché la semaine dernière, est-ce qu'il te serait éventuellement possible de te réveiller pour arrêter le vent ?» Alors, tiens, pour que la scène soit plus réaliste, je vais peut-être vous demander de faire le vent. D'accord ? Alors chaque fois que je dirai le mot tempête, vous allez faire le vent et vous allez souffler. Hein, ce sera beaucoup plus réaliste. Hein ? Alors quand je dis tempête, hein, je sens même que le vent il est humide là. Hein ? Tu rigoles pas, hein, tu es en train de dormir là. Alors voilà que celui qui se sent culpabilisé n'ose à peine, ose à peine le réveiller, parce qu'il réalise que finalement il ne mérite pas que Jésus se réveille pour lui. Il ne mérite pas que Jésus intervienne dans la difficulté qu'il rencontre. Peut-être a-t-il, pas plus tard que hier, péché contre un des disciples qui était dans la barque. Peut-être était-il en colère contre l'un de ses disciples et ne lui avait-il pas encore demandé pardon. Vous savez, il y a certaines personnes qui osent pas s'approcher de Jésus. Parce qu'ils disent tout le temps, je mérite pas. En vue de mon passé, en vue de mes erreurs, en vue de ce que j'ai commis hier ou avant-hier, en vue de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et puis plutôt que de compter sur l'amour de Jésus et sa grâce, ce Jésus qui veut s'approcher de lui, il culpabilise et n'arrive pas, au travers de sa prière plaintive, à permettre à Jésus de se lever pour arrêter le vent et la tempête. Merci la tempête. Et puis alors il y a la manière des ultra-spirituels. Alors les ultra-spirituels, eux, c'est « Seigneur, je te remercie de ce que je suis tellement saint. Et je sais qu'aujourd'hui, je mérite ta bénédiction. Seigneur, grâce à mes bonnes œuvres, je sais qu'aujourd'hui, tu arrêteras la tempête. » Et Seigneur, si le bateau devait couler, finalement, tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis je pense même que si le bateau devait couler, c'est probablement parce que qu'un des disciples qui est là avec moi a péché. Avec une telle attitude, il nous est difficile de toucher le cœur de Dieu et de le réveiller dans des circonstances difficiles que nous pouvons vivre. Et puis il y a une troisième attitude. C'est la manière des irrespectueux. Ceux qui pensent que Dieu leur doit tout. Vous savez, ceux qui rentrent dans la salle en disant « je viens malade et il faut que Dieu me guérisse ». Et puis si Dieu me guérit pas, c'est que Dieu n'existe pas. Vous savez, c'est comme si vous réveillez quelqu'un. Il faut que tu fermes les yeux, hein, parce que tu dors. Vous êtes-vous déjà fait réveiller avec de l'eau froide? Il a l'air inquiet, hein. Rassurez-vous, je ne le ferai pas. Je suis respectueux. Mais c'est celui qui pense qu'il mérite tout. Et au travers de son attitude, comment peut-il espérer attirer la faveur de Jésus? Et alors, il y a ceux qui comptent toujours sur les autres. Ils se tournent vers les disciples qui se trouvent dans la barque. Et puis il se dit, ben finalement, nous allons tirer au sort. Et il pense, pourvu que ce soit pas moi. Puis alors c'est amstramdram, pique et collégram. Et puis à la fin, c'est aller voir Samuel. Hein. Lui, il a la foi pour tout le monde. Il compte sur les autres et n'ose pas eux-mêmes s'exprimer parce que finalement, ils n'ont pas la foi nécessaire qui leur permet de saisir les promesses de Dieu. Et puis, il y a la manière du calculateur, l'intellectuel. Alors, j'ai rien contre les intellectuels, hein. J'aime les intellectuels. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'avant de construire une tour, assieds-toi et calcule. Sinon, laisse tomber. Mais alors, vous avez ceux qui, avant de construire une tour, s'assiedent. Et puis, ils sont tellement longtemps assis que jamais la tour ne se construit. Ils ont passé leur vie à calculer et à calculer. Et à trouver des erreurs, à trouver qu'ils ne pourront jamais construire la tour. Non pas qu'ils ne pouvaient pas la construire, mais ils faisaient tellement confiance uniquement à leurs propres calculs qu'ils n'ont jamais construit la tour. C'est celui qui s'approche de la barque et qui calcule d'abord le sens du vent. Vous savez, il calculait le sens du vent. Et puis quand il sait d'où vient le vent, il calcule la vitesse du vent, il calcule la force du vent. Et puis il calcule le nombre de mètres cubes d'eau qui tombe dans la barque. Par rapport, eh bien, aux disciples qui déjà commençaient à écoper. Alors il fait son calcul. Et puis il se dit, bien finalement, je calcule que dans exactement 18 minutes 37 secondes, nous coulerons. Donc dans 18 minutes, il faut réveiller Jésus. Ça, c'est les intellectuels. Ceux qui essayent toujours de trouver une solution par eux-mêmes. Alors, je ne dis pas que nous ne pouvons pas trouver de solution. Dieu nous a donné cette sagesse qui nous permet de mener réflexion et de trouver des solutions. Et quand nous trouvons des solutions avec la sagesse que Dieu nous a donnée, nous ne pouvons que le glorifier, lui. Mais il arrive que nous ayons besoin de la puissance de Dieu pour se manifester parce qu'humainement, il n'y a pas de solution. Et nous ne devons pas nous arrêter à nos raisonnements parce que nos raisonnements ne peuvent pas produire plus. Mais nous devons, eh bien, compter sur celui qui peut intervenir. Et la tempête a continué à souffler. Elle est de plus en plus belle, la tempête, hein. Alors, je prends maintenant le texte. Dans le texte, il est dit que les disciples étaient paniqués, effrayés, ils avaient peur. Et parce que les disciples avaient peur, ils ont crié « Jésus, réveille-toi !» Là, je l'ai vraiment réveillé, hein. Merci beaucoup, Luigi. Merci de tout cœur. On peut l'applaudir, hein. Jésus, réveille-toi! Tu connais mon problème, tu connais mon épreuve. Réveille-toi, j'ai peur. Et les disciples, lorsque vous lisez le texte, on dit à Jésus, mais nous allons couler. Nous coulons, si tu ne te réveilles pas, si tu ne fais pas quelque chose, c'est sûr, nous allons couler. Qu'est-ce qu'on fait, les disciples? Plutôt que de compter sur ce que Jésus était capable de faire, voire peut-être eux-mêmes de prendre autorité sur la tempête, ils ont regardé le côté vide du verre. Celui où, dans leur esprit, ils ont vu ce bateau qui déjà coulait. Et leur attitude, c'était la peur. Vous savez ce que j'apprécie dans ce texte? Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que, bien que les disciples aient eu peur, bien que les disciples aient réveillé Jésus à cause de leur crainte, Jésus ne leur a pas dit, bien, parce que vous n'avez pas la foi, finalement, je ne vais pas agir. Sa question a été, où est votre foi? S'il a demandé où est votre foi, c'est parce qu'en regardant bien, en scannant le cœur des disciples, il n'a pas vu, il n'a pas trouvé de foi. Et leur attitude a montré qu'il n'y avait là pas de foi, en tout cas aucune foi consistante. Mais Jésus n'a pas dit, tant pis pour vous, parce que vous n'avez pas la foi, je ne vais pas agir. Jésus a agi. Il s'est levé. Et alors que, eh bien, le miracle ne dépendait pas de leur foi, mais plutôt de la compassion de Jésus à leur égard, Jésus a arrêté les vents, a arrêté la mer et s'est manifesté avec force. Amen. Quatrième point et quatrième découverte au travers de ce texte que nous faisons de Jésus. Il menaça les vents, il menaça l'eau, la mer qui s'arrêta. J'aimerais dire que Jésus est puissant. Et Jésus est suffisamment puissant pour agir quelle que soit la difficulté que nous pouvons vivre. Et j'aimerais ce soir peut-être, en me collant à ce texte, parler particulièrement de sa capacité à ôter nos peurs, ce qui nous paralyse. Parce que finalement, ce qui peut nous empêcher de croire qu'il agit, de croire qu'il veut être proche de nous, de croire qu'il est disponible, c'est peut-être nos différentes peurs qui sont là et qui sont à l'origine de notre incapacité de le réveiller ou de faire monter vers lui des prières qui puissent montrer que nous avons la foi. Alors j'ai noté là quelques peurs, peur de la vie et tout ce qu'elle apporte. Je suis tellement effrayé de voir en ce moment toutes les personnes qui sautent la vie. Régulièrement, lorsque nous allons dans les quartiers, nous entendons des personnes qui, parce qu'elles ont peur de la vie, parce qu'elles sont dégoûtées, parce qu'il n'y a pas d'espérance, sautent la vie. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Peur peut-être de soi-même, de nos réactions, de nos pulsions, des péchés qui nous tiennent captifs et qui nous empêchent de faire le bien, voire qui nous mènent à faire ce qui n'est pas bien. C'est Paul lui-même qui dira dans l'épître aux Romains, « Seigneur, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Peur de soi-même, de ses réactions, de ses colères, de son caractère. Combien si souvent nous avons tout cassé à cause de nos colères et l'avons-nous ensuite regretté? Mais cela a été plus fort que nous. Jésus est venu pour nous libérer de nous-mêmes et du péché qui nous tient captifs. Peur d'être rejeté. Peut-être dans ta vie, tu as tellement été rejeté, tu as tellement souffert, tu as tellement vécu des paroles qui ont dit ou exprimé que tu n'étais pas désiré. Et parce que tu as été rejeté, aujourd'hui tu as peur de te faire rejeter. Alors l'une des solutions, quand on a été longtemps rejeté, eh bien c'est de mettre une carapace et d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Puisque l'autre est accepté et pas moi comme je suis, pourquoi ne pas essayer de ressembler à l'autre? Et puis en essayant de ressembler à l'autre, je ne suis pas moi-même, je ne peux pas m'épanouir, mais au moins peut-être que je serai accepté. Peur d'être rejeté. J'aimerais vous dire, Jésus ne vous rejettera jamais. Il vous aime tel que vous êtes. Lui-même a été rejeté. Mais il a été rejeté afin que, bien, nous soyons acceptés par lui. Peur de Dieu. Parce que quand tu n'étais pas sage, on t'a donné l'image d'un Dieu qui punit. D'un Dieu qui est le père fouettard. D'un Dieu qui est sévère. Et tu as l'image d'un Dieu sévère parce que peut-être chez toi tu as vécu la sévérité d'un père, la sévérité extrême. Et quand on te dit Dieu est un père, tu penses tout de suite à ce que tu as vécu. Et tu as peur de Dieu parce que tu penses qu'il sera aussi sévère que ce que tu as vécu. Peur d'être aimé. Ça peut paraître bizarre d'avoir peur d'être aimé. Pourtant, l'amour est un bon sentiment. Mais certains ont tellement vécu ou mal vécu d'être aimés par l'autre. Ils ont été tellement abandonnés que finalement eux aussi se mettent une carapace et résistent quand l'amour, eh bien, dépasse les limites. Peur d'être aimé par les autres. Voyez-vous, Job, lui, a vu l'épreuve et la difficulté qu'il a vécue lui permettre de s'approcher de Dieu. Il est dit à la fin du texte de Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Quelle proximité avec Dieu. Et je crois que Job était, avant l'épreuve, déjà très proche de Dieu, sans quoi il n'aurait pas pu réagir comme il a réagi. Je crois que l'épreuve l'a encore rapproché de Dieu. Et Job, de la même manière que les disciples ont vu Jésus arrêter les éléments, a vu la puissance de Dieu qui l'a béni et doublement béni. Puisque Job a eu le double de bien, il a été guéri. Et puis il a eu le double d'enfants. Il a eu 10 enfants physiques, mais il savait que les 10 enfants qui étaient morts, un jour il allait les revoir au ciel. Amen. Et aujourd'hui il se réjouit avec ses enfants. Et un jour, nous irons avec lui nous réjouir. Amen. J'aimerais, pour terminer ce message, que nous puissions réaliser la proximité, l'humanité, la disponibilité et la puissance de Dieu. Je voyais l'autre jour une photo. Alors, j'ai emmené la photo, mais je dirais âme sensible s'abstenir. C'est une photo médicale. Et j'aimerais que l'on mette la photo pour vous l'expliquer. La photo est un peu dure, mais en même temps, j'aimerais vous expliquer l'histoire de cette photo qui, finalement, m'a montré à moi la grandeur de Dieu. Et j'ai déjà vu de belles photos, mais je crois que si je devais, eh bien, citer une photo comme étant la photo de l'année, je citerais celle-ci. Voilà. Alors, c'est légèrement flou. Mais j'aimerais vous expliquer l'histoire de cette photo. C'est un petit garçon qui, alors qu'il était dans le sein de sa mère, on l'a détecté chez lui une maladie des os, ou plutôt des os du dos. Alors j'ai le terme de cette maladie ici, c'est un spina bifida, une infection de la colonne vertébrale. Et alors qu'on a trouvé cette maladie chez cet enfant, eh bien la femme qui elle-même était médecin connaissait un autre médecin et savait qu'il opérait ce genre de cas. Il faut savoir que l'enfant, qui se nommait Samuel, avait 21 semaines. Il avait donc un petit peu plus de 5 mois. Et cette femme, la maman qui était enceinte de cet enfant, de Samuel, savait que ce médecin opérait des spina bifida. Et elle est allée rencontrer ce médecin qui a opéré cet enfant. Alors à cet âge-là, pour que l'enfant ne meure pas, il ne faut pas le sortir de l'utérus. Donc le médecin l'a opéré alors qu'il était dans l'utérus. Et vous voyez dans le haut de cette image, il a fait une légère incision. Et quand il a fini d'inciser, il a opéré l'enfant. Et à un moment, alors qu'il avait fini d'opérer l'enfant, alors qu'il avait fini de toucher à l'infection de cette colonne vertébrale, et que l'enfant, que l'opération avait réussi, voilà que, au travers de cette incision, il voit une petite main, la main d'enfant que vous voyez là, 5 mois, sortir et prendre le doigt du médecin. Et le médecin dira la chose suivante, c'est, je me suis arrêté pendant quelques secondes. Et j'ai regardé la main de cet enfant me tenir le doigt, comme pour me dire merci de ce que je venais de faire. Et c'était pour moi certainement le moment le plus émouvant de ma vie. Et ils ont appelé cette main la main de l'espoir. Et quand je lisais le résumé de ce texte, à la fin il est dit ceci, eh bien que l'opération avait réussi à 100%, que cet enfant aujourd'hui est né et se porte très bien. Mais ce que je veux dire au travers de cela, c'est que de la même manière que Dieu a donné la sagesse aux médecins, et je bénis tous les médecins qui sont ici dans cette salle, et qui a permis à ce médecin d'opérer la colonne vertébrale de cet enfant, pour qu'il puisse s'en sortir et grandir normalement, de la même manière nous avons un Dieu qui a la capacité de venir au secours de nos épreuves et de nos difficultés, de nous-mêmes dans nos épreuves et nos difficultés, quelles qu'elles soient. Et peut-être aujourd'hui ton épreuve est telle que tu n'as que juste la capacité de sortir ta main pour tenir celle de Dieu. Et dire, Seigneur, ce soir, moi je peux pas faire plus dans la situation, dans la tempête dans laquelle je me trouve, je peux pas faire plus que de sortir ma main, te faire confiance et te tenir la main. Je peux pas faire plus que cela. Mais j'aimerais te dire, à toi qui es là ce soir, si tu fais juste là, si tu crois que Dieu veut être proche de toi, si tu crois qu'il veut être disponible pour toi, si tu crois que Dieu est puissant et qu'il a quelque chose pour toi ce soir, alors sors juste la main. Tiens-lui, tiens-le par la main et laisse Dieu se manifester dans ta vie. Comme il a agi pour Job, qui à un moment a sorti la main et a dit, Seigneur, peut-être que j'aurais dû rester dans le sein de la terre plutôt que de naître, mais Dieu est intervenu dans sa vie. Comme les disciples qui avaient besoin de Jésus et qui ont crié à lui, bien sûr, ils manquaient de foi. Mais Jésus, dans sa grâce, parce qu'il les aimait, a décidé de venir à leur secours. C'est parce qu'il vous aime et dans sa grâce qu'il veut venir ce soir à votre secours. Amen. J'aimerais peut-être un instant que l'on ferme les yeux.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.